France Inter, le 7-9.
Alexandra Ben Saïd, votre invitée ce matin, est tête de liste Les Patriotes aux élections européennes.
Bonjour Florian Philippot.
Bonjour.
À partir d'aujourd'hui, les listes officielles pour les élections européennes peuvent être déposées. Alors, chez Les Patriotes, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'il y a 79 noms?
Oui, elle est prête. La liste est prête. Elle sera déposée, dans les jours qui viennent. On est en train de vérifier tous les CERFA, comme on dit, c'est-à-dire les documents que doivent remplir les candidats sur la liste. Et nous serons là pour incarner une voix, la voix du plus jeune mouvement politique de France, je le rappelle. Les Patriotes ont un an et demi d'existence.
Et justement, à un an et demi d'existence, faites-vous partie de ces partis qui ont des problèmes de financement, parce qu'une campagne, ça coûte entre 800 000 et 1 million d'euros. Vous en êtes où?
Nous n'avons évidemment aucun financement public et nous n'avons aucun financement bancaire. Donc, nous avons les financements de nos donateurs et les financements de candidats qui sont sur la liste et qui peuvent contribuer. Voilà. Donc, je continue d'ailleurs à faire appel aux donateurs parce que, certes, nous avons le financement pour la campagne, les bulletins de vote, les professions de foi, c'est-à-dire être candidat, puisque je ne sais pas si les Français le savent bien, mais en France, ce sont les candidats, sauf à l'élection présidentielle, qui payent leurs bulletins de vote et qui les acheminent dans les préfectures. Et c'est ça qui coûte extraordinairement cher.
Et ça veut dire combien? Combien d'argent, ça veut dire
quelle enveloppe, ça sont des centaines de milliers d'euros. Ouais. Mais c'est vrai que si on veut être un peu plus à l'aise, un tout petit peu pour faire quelques tracts et quelques réunions publiques, eh bien, il faut encore un peu d'argent. D'ailleurs un problème, il faudrait mettre en place la banque de la démocratie, honnêtement. J'entends des partis qui s'en plaignent, mais qui croulent sous les millions. Nous, honnêtement, on s'en plaint à raison.
Le cœur de votre programme, Florian Philippot, c'est la sortie de l'Union européenne. Alors vous n'avez pas changé, contrairement à votre ancien parti, le Rassemblement National, qui y a renoncé et qui explique maintenant que ça n'est plus nécessaire, la sortie de l'Union pour changer l'Europe. Est-ce que c'est vous qui ne voyez pas tout simplement le changement avec la poussée des nationalistes au Parlement européen?
C'est-à-dire que par magie, effectivement, ils nous expliquent qu'ils pourront tout changer de l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils en viennent à faire les promesses que tous les autres font. Ils sont rentrés dans le système, en quelque sorte, parce qu'ils ont 2 ou 3 alliés sur 27. Bon. Et parmi ces alliés, ils en ont qui prônent exactement l'inverse de ce qu'ils veulent défendre. Par exemple, la Hongrie et la Pologne sont amoureux fous du travail détaché. Donc, il ne faut pas compter sur leurs alliés hongrois ou polonais pour se battre contre la directive détachement des travailleurs. Ils nous parlent souvent de la Salvini en Italie concernant l'immigration, mais si vous regardez les premiers chiffres italiens, l'immigration ne baisse pas en Italie. Il y a quelques bateaux qui ont été arrêtés, mais le gros de l'immigration, c'est le regroupement familial et c'est lié à l'ouverture des frontières et à Schengen.
Donc, vous dites mensonge, en fait.
Énorme mensonge, trahison des classes populaires. Leur allié autrichien vient de voter la semaine de 60 heures de travail par semaine. Voilà, c'est ça le modèle? Bon, je peux multiplier comme ça les exemples. En réalité, et il n'y a pas que le Rassemblement National qui est confronté à cela, on pourrait parler aussi de la France Insoumise ou de Debout la France, c'est-à-dire tous ceux qui vous promettent de tout changer, de faire l'Europe des nations, l'Europe qui protège, l'Europe verte, l'Europe sociale ou je ne sais quoi, tout en y restant et en faisant croire qu'ils vont la changer de l'intérieur, mentent depuis maintenant 40 ans aux Français. Les plus anciens mentent depuis 40 ans, certains mentent depuis quelques mois parce qu'effectivement, vous l'avez souligné, ils ont fait un revirement spectaculaire, sondagier et électoraliste. Eh bien, moi je dis avec les Patriotes qu'on peut avoir la protection du peuple français, le retour de la souveraineté populaire et nationale, c'est-à-dire de la démocratie, et la prospérité si nous sortons de l'Union européenne, et seulement si nous sortons de l'Union européenne, et donc de l'euro, de Schengen et de toutes les politiques de l'Union européenne.
La prospérité, on se demande quand même comment vous l'obtenez en sortant de l'Union. Quand on pense que les 2/3 de nos échanges, c'est avec nos voisins européens, qu'est-ce qui va se passer si on sort de l'Union?
Mais justement,
on exportera moins, il y aura des droits de douane?
Non, justement, parce que nous exporterons plus. Parce que effectivement, vous avez raison, beaucoup de notre commerce se fait au sein de l'Europe, mais ça a toujours été le cas. C'est un facteur simplement de proximité géographique.
Mais l'Europe, c'est justement
mais
pas
ce
de droits...
sont aussi nos principaux concurrents. L'Allemagne est notre principal concurrent industriel. Or, si nous partageons la même monnaie, nous ne pouvons plus jouer à armes égales parce que l'Allemagne en permanence bénéficie d'un supermarque qui s'appelle l'euro, qui est même sous-évalué pour son économie, c'est ce que dit le FMI, alors que la France, elle, est plombée par ce même supermarque qui s'appelle aussi l'euro, qui est le même, mais qui, lui, est surévalué pour l'économie française. C'est-à-dire, et ça, le FMI le dit aussi, c'est-à-dire qu'en permanence, eh bien, on se bat avec une main attachée derrière le dos face à nos principaux concurrents et on ne peut plus exporter et on ne peut plus être compétitif. Et la France se désindustrialise à vitesse grand V. Vous avez un État.
Quand vous regardez
un État a besoin d'une monnaie. Je veux dire, un État a besoin d'une monnaie pour des raisons économiques qu'on vient de citer, mais il a aussi besoin d'une monnaie pour des raisons politiques. C'est un instrument de souveraineté, c'est un instrument d'indépendance.
Donc vous voulez revenir au franc ?
Ne va pas revenir, c'est créer une nouvelle monnaie nationale. On pourra l'appeler le franc, ça me va très bien. Franc, ça veut dire libre.
Mais ça, vous savez bien que ça va attaquer le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat et l'épargne des retraités.
Je ne crois pas du tout. Je pense précisément l'inverse. Je pense que c'est l'euro qui nous plonge dans une politique d'austérité, de désindustrialisation, c'est-à-dire de chômage et de baisse du pouvoir d'achat, y compris des retraités. Mmh. Alors que la nouvelle monnaie nationale nous permettrait d'être beaucoup plus compétitifs, plus exportateurs et d'être un pays libre. On n'aurait plus en permanence l'épée de Damoclès de la Banque centrale de Francfort sur toutes nos politiques et toutes nos décisions.
Quand vous regardez le Brexit, c'est ça qui vous fait rêver ? L'économie, elle est quand même complètement à l'arrêt, là ?
Bon, elle n'est pas à l'arrêt, l'économie. Elle n'est pas du tout à l'arrêt. On a appris il y a quelques jours que c'est le Royaume-Uni est le pays qui accueille le plus d'investisseurs dans le monde. C'est quand même impressionnant pour
les
un pays qui serait au bord du gouffre.
Les investissements sont tous à l'arrêt, les usines
mais
automobiles
non.
ne se créent plus,
le plus
les entreprises ne savent plus
monde.
Comment faire avec leurs stocks. Voilà où en est le Royaume-Uni.
Mais ça, vous l'avez vu dans les rêves ou les cauchemars.
Ah non,
je l'ai vu
dans les reportages, croyez-moi.
J'allais dire de certains
journalistes
français, donc ça revient même. Je vous assure que les chiffres et la réalité, moi j'étais à Londres il y a quelques jours, ne sont pas du tout ceux-là. Il y a 3,9% de chômage.
Il y avait 5% avant l'annonce du Brexit. Oui. C'est-à-dire ils en sont même à la pénurie de main-d'œuvre.
Ben oui,
ils en sont à la pénurie de main-d'œuvre qui fait
Exactement.
Qu'il y a des champs qui ne peuvent plus être récoltés.
Ce qui fait surtout qu'il y a une hausse des salaires. Ils sont en pénurie de main-d'œuvre. Donc l'an dernier, ils ont eu 3,5% d'augmentation des salaires, une baisse de l'immigration. Et ils ont, comme je vous l'ai dit, des investisseurs qui se ruent.
Le Brexit n'est pas encore arrivé.
La perspective, elle est là. L'anticipation, vous savez, en économie, elle est primordiale. Donc si on anticipait le drame, il n'y aurait pas des investisseurs qui se précipiteraient. Au passage sur le Brexit, Nigel Farage, qui a créé le Brexit Party, qui est en tête là-bas des intentions de vote à 27% pour les européennes, appelle à voter pour la liste des patriotes que je conduis aux élections européennes en France et je l'en remercie.
Il y avait 52% de Britanniques qui ont voté pour le Brexit et donc il y en a 27 qui restent pour Nigel Farage.
Ah, oh, il n'y a pas que eux qui proposent le Brexit. En tout cas, ils sont en tête.
Je reviens à la France. Moins de 1% d'intention de vote pour vous, plus de 20% pour le Rassemblement National.
Il y a des sondages à 2, 2,5 aussi, peu importe.
Plus de 20%, on est d'accord, il y a quand même une grosse différence avec le Rassemblement National. Jordan Bardella, la tête de liste, vous le connaissez, on dit que c'est votre ancien protégé, réussit plutôt pas mal.
Je l'ai connu, moi. C'est moi qui l'ai fait élire conseiller régional, c'est moi qui l'ai fait nommer secrétaire départemental dans son département de Seine-Saint-Denis, mais à une époque, si vous voulez, où il me parlait, il avait que le mot Frexit à la bouche, c'est ressorti de la France de l'Union Européenne, il me disait qu'il fallait sortir de la thématique migratoire et parler de santé, de transport, d'emploi, de services publics, d'environnement, ce qui est, moi, ma philosophie et celle des patriotes, qui est un mouvement large, allez lire notre charte sur notre site internet, et puis je l'ai vu évoluer, c'est tout. Il a évolué comme ce parti, que j'ai fini par quitter parce que c'était devenu insupportable. Le rétrécissement sur l'immigration et l'immigration seule, le mensonge, on l'a vu, sur l'Union Européenne, le refus maintenant d'en sortir, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un, si vous voulez, d'extrême droite. Je suis quelqu'un qui vient du gaullisme social et du chevènementisme et je suis profondément attaché à la République, à la France et au progrès social.
Et là, vous avez lu, j'imagine, leur programme, le localisme, par exemple. Vous avez l'impression que c'est l'extrême droite qui revient, là, vous dites, dans le Rassemblement
National ? Non, j'ai vu dans leur programme, je vais vous dire, par exemple, le serpent fiscal. Ça, personne n'en a parlé. Ils l'appellent comme ça eux-mêmes, en comparaison au fameux serpent monétaire. Vous savez ce qui a précédé l'euro. Il y avait un taux, et puis les monnaies nationales au sein du système monétaire européen ne pouvaient pas évoluer plus qu'un... C'était 2,25% plus ou moins par rapport à ce taux, et ça a précédé l'euro. Bon, serpent monétaire européen, c'était déjà une rupture de souveraineté terrible. Eux, ils veulent maintenant, le Rassemblement National veut le serpent fiscal, c'est-à-dire que l'Union européenne fixera des taux d'impôts, et les États pourront varier un tout petit peu par rapport à ces taux d'impôt.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que même Macron ne le propose pas. C'est-à-dire que le Rassemblement National, qui est soi-disant un grand parti patriotique et national, français, souverainiste, etc., propose de transférer une large partie de la souveraineté fiscale des États et de la France à la Commission européenne. Écoutez, si demain l'Union européenne décide de notre impôt sur le revenu, notre impôt sur les sociétés, notre TVA, ce qui est déjà en partie le cas, de notre CSG et tout le reste, je serais extrêmement inquiet. C'est exactement ce que propose le Rassemblement National. C'est une trahison, je l'ai dit, des classes populaires en premier.
Marine Le Pen, elle est pourtant d'accord avec ça.
Elle est d'accord avec ça, puisqu'elle le porte. C'est dans son programme, c'est écrit en toutes lettres dans leur programme présenté il y a une semaine. C'est incroyable, même Macron pourrait en rêver, le Rassemblement National l'a fait.
L'autre liste pour le Frexit, c'est celle de François Asselineau. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez en quoi vous êtes différent.
Alors, d'abord...
En quelques secondes.
Mais d'abord, je voudrais simplement dire que moi, j'aimerais qu'on puisse travailler ensemble, et voire même faire liste commune, et ça n'est pas totalement terminé, parce qu'il nous reste quelques jours pour déposer les listes, et ça aurait beaucoup de sens d'avoir une très grosse force pour le Frexit dans cette élection européenne. Nos différences...
Vous êtes en discussion ?
On n'est pas en discussion directe, mais je dis que des choses sont tout à fait possibles. Notre différence, allez, nous avons des convictions qui peuvent être différentes. Moi, je pense qu'il faut être très clair, par exemple, sur l'immigration. Je pense qu'il faut la baisser fortement. Je pense qu'il faut savoir ce qu'on pense du SMIC, etc. Moi, je veux l'augmenter 300 euros sur le quinquennat. On a des points de divergence, mais c'est vrai que pour une élection européenne.
Et la tête de liste.
Pour une élection européenne, la sortie de la France de l'Union européenne, qu'on est les deux seuls à proposer, effectivement, ça vaut plus que tout le reste. Bon. Ça sera peut-être moins vrai pour d'autres élections, mais c'est très vrai pour les européennes.
Député européen, pour l'instant, tête de liste, les Patriotes, merci d'avoir été sur France Inter.
Merci à vous.